Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudycoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique sur méthodesp.rudycoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Super Physique, notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, c'est la forme ou quoi ?
Salut Rudy, bah écoute, c'est la forme, enfin c'est la forme pour un vegan qui marche 100 km par semaine et puis qui fait 4 séances d'entraînement par semaine, tu vois.
Ah, c'est la même forme quoi. Ah bah là, c'est pour pas être en forme.
Ça va à peu près quand même, mais bon, pas oublier que je suis vegan, alors tu sais, je suis à moitié en morceaux, hein, comme c'est connu.
Bah je sais pas, il y a toujours des gens dans les commentaires qui sont un peu contre le véganisme, comme si on les attaquait personnellement. Moi je suis pas vegan, hein, si jamais, mais pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, mais comme si quand t'étais vegan ou végétarien ou que t'avais une alimentation particulière, ça les attaquait personnellement quoi, donc c'est toujours
Ouais, je sais pas, comme j'insiste assez souvent quand j'ai des petits malheurs pour faire un peu amuser la galerie, peut-être que ça donne l'impression que c'est prépondérant et alors qu'en fait c'est pas le cas quoi. Mais bon, donc voilà, c'est la petite blagounette. Donc pour un vegan qui fait pas mal de marches et puis qui s'entraîne, ça va à peu près, Rudy. J'ai de la chance, ça pourrait être pire.
Non, je sais pas si tu as vu, c'est une des activités dont je voulais parler, le record du monde du 500 mètres au rameur vient d'être battu. Donc c'est 1:09.8 par Big Phil, donc je sais plus quel est son nom, mais c'est un type que j'avais croisé en 2020 à Paris, lors des champions du monde, un type qui était assez énorme, hein, qui faisait plus de 2 mètres et qui faisait un bon... je pense 115-120 kilos, hein, pas si gras que ça, mais vraiment très très solide avec des gros os. Et ça va te faire plaisir, j'ai regardé un peu son compte, ça fait un moment que j'avais pas regardé, et il fait beaucoup de ski erg. Et je me suis dit, oh, mais c'est incroyable, il a dû écouter nos podcasts pour faire exactement le même entraînement que toi.
Ouais, mais je l'avais déjà dit, ce ski erg, il y en a quand même pas mal qui le font, enfin, il y en a pas mal, j'en vois qui le font, donc c'est que ça doit pas être complètement inutile. Et justement, j'ai persévéré, pour ceux qui se souviennent des podcasts d'il y a 2 mois ou peut-être 3 mois, j'avais testé, puis j'avais dit, bon, c'est pas terrible, d'ailleurs, c'est pour ça que personne à la salle le fait, etc. Mais j'ai persévéré parce que je sentais que ça pouvait être un mouvement intéressant. Et là, je commence à choper un peu le truc et un peu le virus avec le même... c'est un peu la même chose que le rameur où, tu sais, faut suivre une cadence, faut suivre une allure et tout ça. Puis, comme je dis, j'ai l'impression de jouer aux fléchettes à chaque fois. C'est comme si je jouais aux fléchettes des centaines de fois pendant la séance, parce qu'à chaque coup de rame ou à chaque tirage de ski, il te donne un chiffre, donc ton nombre de watts ou ton allure. Et en gros, ben, tu dois essayer de coller à l'allure de la séance qui est prévue. Et pour moi, c'est comme une fléchette. Voilà. Si jamais c'était prévu 2:17 et que le truc, il me met 2:17.3, eh ben, c'est comme si j'avais fait 7/10 flèche. Et puis, bah, s'il me met pile 2:17 alors que je devais faire 2:17, bah, hop, c'est un 10/10 à la fléchette, tu vois. Alors, je suis heureux comme tout. Et voilà, il y a ce petit côté-là un peu rigolo. Et bah, moralité, j'ai accroché aux deux trucs. Et ouais, je suis pas étonné que le type y fasse, parce que comme j'avais expliqué en podcast, en fait, c'est un mouvement qui est antagoniste et moralité, ça permet de faire une récupération musculaire tout en poursuivant un entraînement cardio. Donc c'est un mouvement qui est intéressant.
Alors, donc, deux questions dans l'une. La dernière fois, nous t'avons laissé avec cette possibilité que tu achètes un ski erg à ton retour en France. Où en est cet achat?
Ouais, et ben c'est ce que je dis à ma femme régulièrement, j'ai un espèce de petit curseur, tu vois, et en ce moment je suis plutôt si on dit que 5/10 c'est l'hésitation, 0 j'achète pas du tout et 10 j'achète. Là, je suis plutôt à 8 en ce moment, donc je suis
Oh là là, mais attends, tu vas faire un crédit ou pas pour ça, parce que on va pas dépenser 1 200 € d'un coup quand même.
Ouais, bah après c'est comme je pense que c'est comme la muscu, ça va ça va durer un moment, tu sais, mes petits disques Décathlon, ils ont duré 25 ans pour les premiers que j'ai achetés. D'ailleurs, ils s'appelaient Décathlon d'ailleurs, ils s'appelaient pas encore Domios. Donc à mon avis, le ski erg et le rameur, ça devrait durer un moment, vu qu'en plus c'est censé être des trucs solides. Donc normalement, c'est bon, ce sera amorti, Rudy.
Et alors la deuxième question, c'est où est-ce que t'en es de ton entraînement là-dessus? T'avais dit que tu t'entraînais beaucoup pour améliorer ta technique. Au détriment entre guillemets de la perf, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que t'as repris un entraînement plus
je suis un programme, je fais les choses bien, donc j'ai pris un programme qui était adapté à mon niveau. Juste, j'ai dû un peu le modifier parce qu'il fallait qu'il fasse le ski erg. Donc en gros, je l'ai un peu doublé pour qu'il y ait la partie rameur et puis la partie ski erg, pour faire simple. Et puis voilà, et en fait il se trouve que dans ce programme là il y a beaucoup de travail de fond. Et d'ailleurs, pour pas qu'on parle que de ça, puis comme c'est un podcast de muscu, je vais essayer de faire le parallèle avec la force athlétique, puis comme ça tout le monde va comprendre. Donc imaginons que faire un 2000 mètres de rameur ou un 2000 mètres de ski erg, que ce soit faire un maxi au développé couché, au squat ou quelque chose comme ça, quand vous faites de la force athlétique et que votre but c'est d'être bon donc sur ce maxi, eh ben, vous n'allez pas en faire à l'entraînement, en fait. On n'en fait pas. Et vous allez avoir, Rudy va confirmer ou infirmer si ça a modifié. En gros, il y a une première phase, on va s'appeler ça la préparation, où, par exemple, vous allez faire du 8-12 reps pendant un petit moment. Voilà, pour, je sais pas quoi, prendre éventuellement un peu de muscle si jamais, vous avez de la marge au niveau de votre catégorie de poids. Irriguer un petit peu les muscles, renforcer gentiment les tendons, vous reposer de votre précédente tentative de maxi, etc. Donc, il y a une espèce de phase préparatoire qui dure un petit peu. Tu confirmes, Rudy?
Il y a toujours, il y a un peu moins ça.
Voilà.
Mais ça se fait toujours beaucoup, en tout cas, sur la vision, de ceux qui font pratiquer beaucoup d'exercices d'assistance, où effectivement, hors saison, tu fais des séries, un peu style, pour prendre du muscle, donc, 8-12 pour simplifier. Mais il y a toujours un peu cette approche.
C'est ça. Et ensuite, tu as toute une période où là, c'est la période où vraiment tu vas progresser, où là, tu vas être plutôt autour de 5 reps. Donc, en force athlétique, en général, ils aiment bien le 5x5 ou deux fois, ça peut être 4x5 ou 3x5. Voilà, tu as toute cette espèce de phase. Et donc là, si je faisais la comparaison avec le rameur, la première phase, ce serait plutôt de faire de la basse cadence, où tu fais beaucoup d'entraînement entre, mettons, 18 et 24 tirages par minute sur le rameur. Et sur le ski erg, de ce que j'ai compris, ce serait plutôt entre 30 et 36, 38, par exemple. Et ensuite, quand au développé couché, tu vas faire du 5x5, et là, en rameur, tu seras peut-être plutôt avec pas mal de séances entre 24 et 28. Et cette phase-là, normalement, c'est la plus longue, c'est celle où tu vas progresser le plus. Et grâce aussi avec des histoires de pourcentage, si par exemple tu fais 5 x 5 à 120 au coucher, tu sais que si tu tentes un maxi, tu vas possiblement faire 120.
Mais 140, ça veut pas 140 dire. Tu veux dire
5 x 5 à 100. 5 x 5 à 100.
Pardon, ouais.
J'ai peut-être fourché. Ouais, tu fais 5 x 5 à 100. Bon, t'as des chances de faire un maxi à 120. Mais sauf que ça veut pas dire que si tu fais le 5 x 5 à 100 le lundi et que tu tentes ton maxi le samedi, que tu vas réussir les 120. En fait, c'est juste, ça veut dire que t'as le potentiel de faire 120. Et donc, du coup, c'est exactement pareil avec le rameur. Voilà, imaginons que tu arrives à faire 3 x 10 à une cadence de 24 à je sais pas quoi, 2,05, et tu as le potentiel pour faire un 2000 mètres en 7,30. Admettons, j'ai dit des chiffres un peu au hasard. Mais après, en force athlétique, tu vas faire ce qu'on appelle la phase d'affûtage. Et donc, dans cette phase-là, tu vas descendre les reps. Donc, par exemple, tu vas passer de 5 x 5 à 4 x 5. Puis 4x4, ensuite 3x4, après tu vas faire peut-être du 3x3, 2x3, 2x2, et c'est seulement après que tu vas tenter ton maxi. Généralement en compétition, si tu fais de la force athlétique de compétition. Et sur cette phase-là d'affûtage, et là je te redonnerai la parole Rudy, en fait tu progresses pas vraiment, c'est juste que tu essaies de faire en sorte que ton maxi potentiel t'es le plus de chances de l'obtenir. Donc, tu passes de 5 x 5 à 100 et que tu arrives à faire une à 120 en compète, voire une à 122. Et en fait, l'affûtage, il sert à faire ça plutôt que finalement, en compète, tu te viandes et puis que tu fasses une fois 115 parce que tu as mal fait ton affûtage. Et je pense que c'est un peu la même idée avec le rameur où tu as une espèce de phase où tu vas faire une cadence un peu plus élevée, voilà, de 28 à 32. Enfin, pas toute la semaine, mais voilà, tu vas te mettre à intégrer cette cadence-là. Et puis, c'est seulement après que tu vas tenter ton 2000 mètres. Et donc là, dans mon entraînement que je suis, bah, en gros, c'est un peu comme si j'étais dans la à mi-chemin entre la phase préparatoire et puis la phase 5x5 au développé couché. Et le truc, ça dure 16 semaines. Donc, tu vois, c'est long. Mais c'est exactement pareil en force athlétique. Si tu te souviens, des programmes de force athlétique qui durent 6 ou 8 semaines, c'est pas des, c'est des programmes pour débutants, mais sinon ceux qui sont très entraînés, eh ben ils peuvent avoir des programmes qui durent 6 mois, puis en fait ils vont tenter le maxi qui est au bout de 6 mois, et ils vont faire 2 maxi par an. Tu me contredis ou pas?
Non, c'est un peu ça. Alors après, je suis pas sûr que les Clément avec ce podcast parlerait d'affûtage, mais plus moi j'appellerais plus l'exploitation. Tu vois, je dirais plutôt c'est accumulation, exploitation. Tu vois, je vois plus ça comme ça. Et alors après, maintenant, il y a plein de philosophies un peu différentes dans le power. Donc, on avait fait un podcast spécial force avec Clément. Donc, j'invite les auditeurs à le réécouter. Mais oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Donc là, tu en es un peu à la moitié du programme. C'est-à-dire que dans 8 semaines, est-ce que tu retentes quand même un test 2000 ou finalement, comme tu auras progressé
je vais tenter. Ouais, je vais faire. Ben, je suis le truc. Donc voilà, une fois que j'aurai fait cette phase d'exploitation, comme tu dis, ben là, je ferai un 2000. Mais en fait, ça sert à rien de tenter un 2000 maintenant. Ce serait comme de tenter un développé couché sans être passé par toutes les phases. Donc ça n'a pas de sens. Je ferai mieux sans doute que ce que j'ai fait au début janvier, mais guère mieux. En tout cas, pas à proportion de ce que j'ai progressé en cadence base. Donc tu vois, ça n'a pas de sens. Mais oui, mais donc je continue et puis. Je m'amuse et puis je suis content, voilà. Donc je mets à jour mon log sur le forum.
Bah, je le lis, donc je suis content de tout ça. Et sur le ski hack, donc t'étais content, pareil, parce que techniquement c'était beaucoup mieux de ce que j'ai compris.
Ouais. Alors sur le ski hack, c'était très compliqué, mais parce que la cadence n'était pas la même. Les cadences n'étaient pas les mêmes. Et puis j'avais beaucoup de conseils contradictoires sur Internet, parce que ce qui se passe. C'est que sur le rameur, là, il y a beaucoup d'expérience entre ceux qui font de l'aviron, ceux qui font de l'ergomètre et tout ça. Donc, on a quand même beaucoup d'infos et beaucoup de livres et de références. Donc, on arrive à peu près à s'y retrouver. Encore que des fois, il y a des différences. Par exemple, tu vois, ceux qui font de l'aviron, ils ont tendance à faire le rameur en écartant les coudes, parce que quand tu fais de l'aviron, bah, t'écartes les coudes. Et du coup, si tu regardes quelqu'un qui fait de l'aviron, qui fait du rameur, tu vois écarter ses coudes, donc tu dis, bah, moi, je vais écarter les coudes aussi. Alors qu'en fait, non, lui, il écarte les coudes parce qu'en aviron, on écarte les coudes. Mais quand tu fais que du rameur, en fait, faut pas écarter les coudes, ça ne sert à rien. Donc il y a quand même des petites subtilités, mais grosso modo, voilà, t'as plein de trucs. Sauf que pour le ski erg, ce que je voyais, c'était des records qui étaient faits par des types qui étaient monstrueux, tu vois, des super balèzes, des 100 kilos, 1m90, qui eux avaient une cadence, on va dire, assez lente, puis un mouvement assez ample, puis qui mettaient la résistance quasi maximum, mais parce qu'en fait, c'est des monstres, tu vois. Et puis à l'autre extrême, t'avais ceux qui faisaient du ski. Et qu'en fait, qu'utilisait le ski erg en appoint du ski et qu'il y avait un mouvement beaucoup plus court, beaucoup plus rapide, qui n'était pas le même. Et du coup, moi, je savais pas où me situer par rapport à ça. Et puis finalement, bah, je me suis basé sur les préconisations de Concept 2 et tout simplement. Et puis, bah voilà, là, j'ai réussi à choper le mouvement, donc j'en suis assez content. Et il fallait utiliser une cadence plutôt basse. Donc, on va dire que sur le rameur, tu fais beaucoup de cadences entre 18 et 30. Et sur le ski erg, bah, tu vas faire beaucoup de cadences entre 30 et 45. Tu vois, il y a un petit décalage. Et puis voilà. Et puis, bah, voilà, je commence à choper un peu le truc. Donc, je suis content. Et puis, bah, je joue aux fléchettes à chaque entraînement.
Et gros avantage. Et est-ce que tu feras un test sur le ski erg aussi à la fin du
planif? Bien sûr. Ah, bah oui, il faut faire. Parce qu'en fait, c'est exactement comme la force athlétique. C'est-à-dire que, à un moment donné, il faut quand même tenter ton maxi pour ensuite refaire un programme qui colle à quelque chose, tu vois. Donc là, le programme que je fais, je l'ai basé sur mon 2000 du mois de janvier. Donc, c'était 7,40. Je me suis dit que j'étais capable de faire 7,30. Donc, du coup, je l'ai basé même un peu sur 7,30. Et au ski erg, j'ai fait un peu au pif. En général, on met 20 secondes de plus. Donc, du coup, sur le ski erg, j'ai mis, je sais plus, 7,50 ou 8. Et puis, les chiffres collent à peu près. Et puis, voilà, puis je déroule. Tout simplement. Mais après, faut retenter, évidemment. C'est le but aussi.
Est-ce que t'as toujours pas remis ta ceinture cardio, tout ça?
Ah, si, j'ai déjà tenté plein de fois de la remettre, mais ça marche pas bien. C'est ce que j'avais dit, en fait. C'est un truc Bluetooth et des fois, ça me donne la fréquence cardiaque d'un autre. En fait, ça marche pas bien. Et donc, au final, pour le moment, je fais que la cadence et maintenant l'allure. J'essaie de respecter l'allure, vu que c'est quand même, ça fait vraiment partie du programme. Et j'ai un peu délaissé l'histoire de la fréquence cardiaque. Donc, parce que j'ai pas de données fiables. puis qu'au final, ça m'a paru moins important que le reste au fil du temps. Voilà. Effectivement, c'est vrai qu'au début, il y a quelques mois, j'étais assez là-dessus. Et puis, savoir quelle était la priorité. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu es dans la bonne zone? Donc, c'est toujours la cadence. Ça, c'est le truc numéro un. Là, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, la plupart des gens n'ont jamais compris ça à la salle. Hein, ils font pas les bonnes cadences. Et puis, en deuxième, voilà, je savais pas si c'était la fréquence cardiaque ou l'allure qui devait prioriser. Puis, il y a plusieurs théories. Et puis, finalement, bon, bah, comme moi, ça marche pas. Voilà, du coup, je suis basé sur la théorie qui dit qu'il faut prioriser l'allure. Et puis, voilà. Donc, c'est ça l'idée. Et puis, bah, j'ai abandonné complètement le vélo, vu que maintenant, bah, je fais le ski erg, de la rando et puis le rameur. Et puis, ça roule comme ça.
Ouais, ouais, c'était redondant, de toute façon, avec le rameur en termes de flexion, extension de genoux. Donc,
Ouais, ça faisait trop. Puis, même alors, ça avait fait rire sur jeuxvideo.com quand j'avais dit que je montais beaucoup les escaliers, parce qu'à un moment donné, j'habitais un cinquième étage. Et bah, c'est vrai, mine de rien, monter je ne sais combien de fois les escaliers par jour, plus le reste, en fait, j'ai les cuisses qui étaient un peu fatiguées. Alors, évidemment, pas fatigué au point que je peux pas bouger ou que j'ai des courbatures, mais suffisamment fatigué pour que bah, ça se ressente un peu à l'entraînement. Et donc, du coup, en coupant le vélo, ça m'a remis les cuisses plus en forme, voilà, moins fatigué, en fait. Là, ça va.
Et est-ce que physiquement, tu continues de te maintenir après ta perte un peu initiale?
Oui, je maintiens un peu, mais bon... C'est ce que j'avais expliqué au précédent podcast. En fait, ça muscle pas vraiment. Je suis comme un débutant en muscu. Peut-être les pecs en moins maintenant. Donc, je dois être à 73, 74. C'est tout, quoi. Mais il y a pas de miracle. En fait, tu peux regarder. Tu as peut-être déjà regardé sur YouTube. T'as justement des vidéos d'aviron. Donc, des types qui sont olympiens. Hein. Tu regardes le physique qu'ils ont dans les bateaux, les lightweight là, ceux qui font des moins de 75 kilos. Ils sont pas très très balèzes. Hein. Puis tu vois, puis c'est des olympiens. Donc, moi qui suis pas olympien, tu vois, t'imagines bien que ça va pas faire de miracle, quoi.
T'es pas olympien, donc, tu préfères pas les Jeux Olympiques.
Ouais, c'est ça. Donc, voilà, ça fait ce que j'avais dit la dernière fois. Ça fait un peu les cuisses, les fesses, le dos, mais au niveau des bras, voilà, ça doit faire, sans mesurer, je pense que je suis à 34-35, hein, y a pas de miracle. Mais c'est comme ça.
Alors, t'as pas une bolle, je crois, à un coup, parce que tu m'as marqué sur le forum que t'as failli faire du rameur avec quelqu'un qui faisait bien du rameur. Et tu t'es fait niquer.
Ah ouais, non, mais ça, c'était terrible. En fait, donc, ça fait, je sais pas, 3-4 mois que je vais à la salle. Bon, il y a une fois, deux, trois fois, j'avais rencontré donc un type qui était, on va dire, skipper, qui faisait du rameur. On avait échangé un peu et tout ça. Mais la majorité du temps, tous ceux qui font du rameur à côté de moi, en fait, ben, ils savent pas faire du rameur, en fait. Donc, on croit que faire du rameur, c'est simple. Mais en fait, c'est plus compliqué parce que les gens n'y arrivent pas. Donc, ils mettent trop de résistance, ils vont trop vite, ils tirent mou ou ils tirent avec les bras fraîchis. Enfin, c'est un désastre à chaque fois. De temps en temps, je suis de bonne humeur, alors j'en sauve un en lui expliquant comment faut faire. Parfois, d'ailleurs, il est pas content parce que comme je suis tout maigre, il pense que j'ai pas de légitimité et voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais de moins en moins. Et bref, et il y a un coup, j'arrive à la salle et en fait, il y avait une femme qui avait l'air d'être crossfiteuse, était un peu balèze, et elle faisait du rameur, et je voyais à sa cadence, en plus j'ai vu son écran, elle faisait du rameur à cadence 18, et je voyais qu'elle faisait, tout était nickel. Et tu dis déjà, un type qui fait du rameur à cadence 18, c'est qu'il a compris le truc, en fait, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Parce que personne, intuitivement, ne va faire à cette vitesse-là, c'est trop lent, en fait. C'est un petit peu de technique. Et je me dis, oh putain, génial! En plus, c'était ma séance, c'était justement cadence 18. Donc, je me suis dit, pour une fois en 4 mois, je vais pouvoir faire du rameur à côté de quelqu'un, puis avoir l'impression, tu sais, de partager un moment. Parce qu'en plus, c'est pas toujours évident, des fois, de faire ton rameur à cadence 18 quand celui qui est à côté, il fait à cadence 30, par exemple. Eh ben, tu sais, t'es pas dans le même mood, tu vois. Tu dois te concentrer bien pour pas te caler sur son rythme, tu vois. Et là, en plus, voilà, une femme qui avait l'air balèze, etc. Je me dis, génial. Et donc, je me dépêche d'aller dans les vestiaires et tout ça pour me changer vite fait, parce que j'avais vu qu'il, sur son écran, c'était autour de 15 minutes, puis ça ne cessait de décrémenter. Et à quelques secondes, au moment où je m'apprête à mettre sur le rameur, t'as un senior qui s'y met. Et en fait, c'est un senior qu'on fait régulièrement. Lui, il fait des quarts de mouvement en cadence 45. Et il est tout fier de faire ça pendant 20 minutes. Et là, je me suis dit, oh putain, c'est baisé. Et effectivement, le type, il s'est installé. Il a regardé un peu la fille, style de dire « Regarde-moi, moi je suis bon, je vais te montrer comment on fait ». Il a fait son quart de mouvement à 40 et puis bah là, j'ai compris que c'était baisé pour moi. Il y aurait pas de rameur pour moi ce matin et puis bah, pas avec la fille qui faisait bien.
Putain, t'as tort une touche, quoi.
Ouais, bah, c'est, non, c'était pas pour ça, vu que je suis marié. Mais, enfin, comme marié. Mais du coup, bah, je suis allé sur le ski erg. Et là, le gros avantage du ski erg, bah, c'est qu'il est toujours libre. Et donc, bah, ça a été séance ski erg. Et puis voilà. Mais ce qui fait que, du coup, en 4 mois, j'aurais jamais pu faire du, enfin, partager un moment rameur. Tu sais, c'est pas partager un moment Kinder, c'est partager un moment rameur avec quelqu'un, quoi. Et là, il doit me rester une semaine à la salle, 1 ou 2 semaines. Donc, je pense que ça n'arrivera jamais. C'est comme ça.
Mais après, t'en feras chez toi avec des vidéos YouTube. Tu seras bien. Tu seras comme un pape. Et bientôt les lives. Peut-être bientôt les lives sur Twitch.
Ouais, les lives. Mais voilà. Donc, moralité, c'est un senior qui a fait le super babouin à côté de la meuf au lieu que ce soit moi qui puisse partager un moment rameur à cadence 18 avec elle. Voilà. Quand ça veut pas, Rudy, hein, c'est comme ça.
Alors, je change complètement de sujet, mais t'as été voir le film Iron Claw, si j'ai bien compris?
Oui. Alors, je sais pas comment il est traduit en français parce que
moi, si, bah, pas pareil, c'est le même titre, c'est Iron Claw.
Et donc,
moi, j'ai été le voir aussi quand il est sorti. Donc, c'est pour ça, et j'ai vu que tu étais surpris du physique de Zac Efron.
Bah, déjà, le film se laisse regarder. Alors, il y a beaucoup de daubes hein, au cinéma, malheureusement, mais ce truc-là, ça se laissait regarder. Il y a une bonne bande-son et tout ça. Après, on peut vérifier sur Wikipédia, comme c'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, c'est grossièrement inspiré de l'histoire, mais il y a pas mal de... Enfin, grosso modo, il y a quand même des trucs qui sont vrais. Effectivement, beaucoup de gens qui se sont suicidés dans cette famille qui était une famille de catcheurs, avec un père qui était un peu cinglé de catch. Mais ce qui vraiment est terrible, voilà, c'est le physique de Zac Efron dans le film, qui a un physique super sec, super massif et tout ça. Et je me disais, c'est marrant parce que tous ces acteurs-là qui arrivent à avoir des physiques magnifiques, eux, ils ont pas de boutons dans le dos. Alors, je sais pas comment ils font. C'est pas comme à la salle où ils ont plein de boutons dans le dos. Ben, lui, il a aucun bouton. Il a un physique genre culturiste de niveau... je sais pas, un très bon niveau culturiste quoi dans le film. Alors comment ça se fait qu'ils ont pas de boutons, Rudy?
Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais j'avais parlé d'un article justement qui était sorti et on en reparlera après avec cet ami après. Mais j'avais partagé l'article où il disait que c'était les sandwichs à l'avocat qui avaient fait plein de trucs, blablabla. Voilà, on nous prenait pour des cons comme d'habitude. C'était la diète qui faisait tout. Et en fait,
excuse-moi, le jour où t'avais fait le podcast sur les sandwichs en avocat, ça parlait de ce gars-là. J'avais oublié que ça concernait ce gars-là.
Ben, ça parlait de Zac Efron et de l'autre gars qui était avec lui, des deux gars justement qui parlaient de leur diète.
Ah ouais, ah d'accord. Ah oui, parce que l'autre gars dans le film a pas un physique aussi monstrueux, mais là Zac dans le film Zac là, il a un physique de ouf quoi. Hein,
ouais, il est énorme. Et bref, et donc en fait sur l'histoire un peu des produits dopants qui donnent des boutons, en fait c'est comme j'aime pas trop dire ça, mais c'est comme dans la vraie vie. En fait, plus t'es doué pour quelque chose, plus t'es doué, et moins t'es doué. En fait, la personne qui prend des produits dopants et qui a déjà du mal à prendre du muscle naturellement, qui a déjà, je sais pas, un peu de poils dans le dos, qui a un peu dégarni tout ça, bah elle va avoir plein d'effets secondaires qu'on appelle des effets androgénisants. C'est-à-dire, elle va perdre ses cheveux beaucoup plus rapidement, elle va avoir des poils qui poussent dans le dos, elle va avoir des boutons. Au lieu de prendre vraiment du muscle, bah finalement, ça va pas trop marcher. Et des gars comme ça, on en a vu plein. Sur les forums internet, il y a une quinzaine d'années, je me souviens des forums Body Info et compagnie, où à l'époque, bah, t'as des mecs qui étaient vraiment pas d'autres pour la muscu, qui s'entraînaient déjà moyennement, voilà, leur diète était moyen, tout ça, et puis qui se dopaient, et en fait, ils avaient beaucoup d'effets secondaires. Et donc, dans le bouquin après, où c'est bien expliqué tout savoir sur les anabolisants de Jean Texier, qui est un peu un recueil de témoignages, tout ça, il explique qu'au début, quand les stéroïdes ont été créés, qui sont dérivés de la testostérone, et ben, en fait, on les classait, en fonction de leur pouvoir anabolisant, donc c'était surtout les effets positifs, et les effets androgénisants, les effets négatifs. On essayait d'améliorer la testostérone, qu'elle ait plus d'effets positifs et moins d'effets secondaires. Et donc, comme ça, bah, y avait un classement de ce qui fonctionnait le mieux, ce qui donnait plus d'effets secondaires. Mais il n'en reste pas moins vrai que moins t'es doué, et en fait, plus t'as des effets secondaires, et plus... c'est comme ça que bah là, on parlait que des effets androgénisants, mais tu vas avoir aussi des effets donc androgéniques, c'est pour dire que ça augmente la DHT, donc c'est une hormone qui est un dérivé de la testostérone et voilà qui est responsable de la chute de cheveux, de la pousse des poils dans le dos, des boutons entre guillemets. Et t'as des effets aussi œstrogénisants, donc tu te transformes un peu en femme si t'es un gars. T'as les seins qui poussent, tu prends peut-être du gras autour de la taille. Bref, vraiment, tu peux avoir la catastrophe. Alors bien sûr, on va nous dire qu'il existe des produits qui sont censés être anti-androgéniques, anti-œstrogéniques, mais encore une fois, moins t'es doué. Et par contre, t'as des types qui sont hyper doués et eux qui n'ont que les effets positifs. Michael Gundy, il aimait bien dire, peut-être qu'il le dit encore, hein, mais quand il écrivait pas mal d'articles sur le net, qu'un culturiste professionnel, c'était un type qui avait pratiquement que les effets positifs. C'était un type, bah voilà, lui prenait du muscle, il gardait ses cheveux, voilà, il œstrogénisait pas, tout ça. Et plus t'as des effets secondaires, en général, bah, moins t'es doué pour le truc. Et donc, Zac Efron, possiblement, bah, je pense qu'il y a ce truc-là. Et deuxièmement, c'est que les acteurs aussi sont très, très maquillés. Donc, il y a aussi ce truc-là. Je me dis, bah, peut-être, comme en plus les images sont retouchées, peut-être qu'il est bien maquillé pour cacher les boutons. Et qu'en même temps, eh ben, il retouche un peu les images pour qu'il ait la peau nickel. Il y a peut-être ce truc-là parce que, je sais pas s'il est très doué ou pas. Je me souviens que dans le film, comment ça s'appelait, Baywatch, tu sais, il avait fait un film Alerte à Malibu. Vraiment un peu ridicule, quoi. Et dedans, il avait déjà un bon physique. Il était moins balèze, mais il avait déjà un bon physique. Et pareil, il avait pas de mémoire, il avait pas de boutons. Donc, je pense que c'est un type plutôt doué. C'est plus ça. Mais moi, c'est, on voit bien qu'il sent, rien que même quand il se dope pas, il sent la testo, le type, quoi. On voit que, on voit qu'il est doué, quoi. On voit qu'il a un truc. Mais t'en as d'autres, bah, déjà, on se marre un peu, mais le mec qui est un peu skinny fat, tout ça, et puis qui dirait, ouais, je vais me doper, bah, souvent, ça va pas marcher aussi bien que le type qui était plutôt doué pour la muscu, quoi. Donc, c'est comme la morphoanatomie. Plus t'as des longs membres, plus t'as des muscles courts, et moins t'es fait pour. Et à l'inverse, celui qui court, bah, il a des muscles longs qui vont avec, et puis lui, tout marche, quoi. Bah, là, c'est pareil pour les produits, quoi.
Ouais, bah d'ailleurs, ses frères dans le film sont moins musclés et moins secs que lui, quoi. Lui, il est complètement à part dans le film. On voit un peu que lui. Ou alors, c'est parce que moi, j'avais un relent.
L'autre là, qui prend aussi son frangin, qui revient de l'université, tout ça. À un moment, il gonfle quand même. On voit qu'il se dope et putain, il est moins sec. Mais
il est pas du tout aussi balèze. Mais bon, ça m'a fait des réminiscences de mon époque où j'étais fan des types qui faisaient du culturisme et je me disais putain, le physique de ouf, il a le type. Et même il a un cou qui est assez gros. Ça m'a rappelé, tu t'en souviendras peut-être pas. Est-ce que tu te souviens de Peter Paul et David Paul qui étaient les frères Barbarian?
Bien sûr.
Ils avaient aussi un gros cou et il a un peu ce physique-là. Et je pense qu'il a dû faire exprès de travailler son cou pour que ça fasse vraiment catcheur. Et il m'a fait un peu penser à ces gars-là dans ce film. Bref, donc très bien. Il est pas mal ce film. Il est pas mal.
Alors, Fabrice,
j'étais heureux.
Je vais te conseiller un autre film qui a pas été très salué par la critique, qui est sorti sur Amazon Prime. C'est, je sais pas si t'as vu, il y a Conor McGregor qui joue dans un film.
Ah oui, j'ai vu une pub là-dessus.
Bon, avec Jake Gyllenhaal et donc Conor McGregor, et donc bon, qui se regarde, hein, qui est pas un chef-d'œuvre. Et donc justement, tu peux voir dedans que bon bah les deux acteurs sont bien évidemment dopés pour ceux qui se posent des questions, mais que McGregor a vraiment pris la dose parce que vraiment il est vachement solide. Mais c'est un petit film de combat, bon. Je vais pas dire que ça vaut Bloodsport et compagnie, mais c'est un peu dans le même style, quoi. C'est bon, c'est pas fou, mais ça se regarde. Donc, si tu veux voir encore des acteurs balèzes qui se battent et tout, bah tu peux regarder ça. Roadhouse.
Ah bah, si ça passe pas au cinéma. Anyway. Alors, d'autres sujets que j'avais notés, Rudy. La dernière fois, tu avais parlé des fameuses chaussures avec 1 cm ou 2 cm d'épaisseur. Effectivement, j'ai vu qu'il y en avait plein dans le magasin. Et comme il y en a plein dans le magasin, bah, de plus en plus, je vois des gens qui ont des chaussures comme ça à la salle de muscu. Et donc, je voulais rappeler, ou en tout cas discuter avec toi, Rudy, quelles étaient les bonnes chaussures à avoir quand on faisait de la musculation. Edmontant, il fallait avoir des chaussures avec les semelles les plus fines possibles, on verra les deux cas, les plus fines possibles et surtout sans air, sans amorti et tout ça, donc fines et dures. Et éventuellement, pour ceux qui faisaient de l'haltéro ou du power et puis qui aimaient bien avoir les talons un peu surélevés, bah là, ils pouvaient avoir des chaussures ou des chaussures d'haltéro ou des chaussures de power avec une semelle très, très, très dure, genre comme des sabots, et un talon. Mais il faut toujours que la semaine soit dure et quand même idéalement fine, sauf donc pour le squat et le soulevé de terre. Et là, voilà, ceux qui ont des grosses semelles de 1 cm et puis en plus amortissantes, normalement, c'est pas bon pour la muscu. Alors, ton avis, Rudy?
Oui, bah, de toute façon, oui, c'est le cas. Mais comme beaucoup le savent, on est dans un monde d'apparence et la plupart des gens, car la plupart, beaucoup de jeunes gens qui vont à la salle, ils vont un peu quand leur moment fort de la journée et donc s'habillent en Gymshark ou Gym Requin pour faire plaisir à Vince Sartel. Donc, ils sont super bien habillés, ils sont coiffés, ils ont les super godasses qui brillent, tout ça. Et souvent, bah, les belles godasses qui brillent, de mon époque, c'était des Air Max, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'elles sont pas du tout adaptées pour la muscu parce qu'en fait, elles sont molles, quoi. Elles sont un peu instables. Donc, dès que tu fais un mouvement pour le bas du corps, de la presse ou du squat, bah, même si tu sens pas les effets secondaires, parce que le corps humain, encore une fois, est très résilient, bah, c'est pas l'idéal. Après, tu as des marques qui ont sorti justement des chaussures avec pratiquement pas de drop et des semelles assez dures. Je pense notamment, il y a Altra qui avait fait ça, il y a Nike avec ses Metcon qui a fait ça, il y avait Reebok à un moment qui avait fait ça avec ses Nano. Je sais pas si ça existe encore, mais quand ils sponsorisaient le CrossFit, c'était très populaire. Mais c'est vrai qu'il faut une semelle dure, quoi. Il y a pas trop de discussion. Moi, je suis plutôt habitué à avoir même du zéro drop. Je me balade tout le temps avec du zéro drop et avec une semelle très dure et pas d'amorti. Parce que j'aime bien être au contact du sol et ça m'arrive même parce que comme c'est ma salle, le Super Physique Gym, je suis un peu ce que je veux. Dès qu'il fait un peu beau, bah, je m'entraîne pieds nus parce que je suis mieux pieds nus. Mais ouais, c'est
comme
ça.
Comme dans les photos d'Arnold, parce qu'Arnold, il y a plein de photos où ici, où il fait pieds nus. Alors on ne sait pas s'il fait pieds nus tout le temps, mais il en a plein où il est pieds nus.
Ben non, mais c'est vrai que tu te sens. Car moi, je me sens beaucoup mieux pieds nus. On en parlait justement avec Nico Martin que j'ai eu dans les Secrets du Sport là, qui est double vice champion du monde de trail. On parlait un peu de l'évolution des godasses, même pour courir tout ça. Et la conclusion, c'est que effectivement, bah, je dérive un peu sur la course à pied, mais c'est que tu as deux améliorations actuelles, c'est les plaques carbone et puis c'est aussi les mousses. Les mousses sont de plus en plus rebondissantes, mais pour la muscu, si je reviens à notre sujet, bah, ça a pas trop de sens, quoi. C'est pas. Mais bon, après, faut accepter aussi que la plupart des chaussures, après, il y en a qui existent, mais tu peux acheter des chaussures toutes fines. À un moment, c'était la mode des comment ça s'appelait ? Des Converse All-Star. Je sais pas si tu te souviens, à un moment, tous les gars aux États-Unis. Du Power, ils avaient ça parce que ça coûtait pas grand chose. Et alors que à l'époque, t'avais Inzer qui vendait des chaussures qui ressemblaient à des Converse All Star, mais qui vendaient ça 200 balles. Donc j'en avais une paire que j'avais eu, qu'un gars les vendait donc un peu moins cher quand je faisais du Power. Et à un moment, c'était la mode justement pour avoir une semelle assez dure, pas trop d'amorti. Et ouais, c'est toujours la même chose. Il faut des chaussures dures de toute façon.
Voilà, donc c'était juste que je voulais revenir là-dessus. Après, c'est pas forcément pour le look, mais comme dans le magasin, t'en as de plus en plus. C'est vrai que maintenant, pour trouver dès qu'on pas beaucoup de semelles, c'est pas si évident. Faut chercher. C'est un peu comme les produits sans sirop de glucose dans les rayons maintenant. Bref. Alors justement, c'était un autre sujet, mais je vais pas en reparler encore 200 fois de ce truc-là. Il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps, enfin plutôt un rapport de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, qui a montré que le sucre était présent dans la majeure partie des produits transformés, y compris salés. Et donc, c'est ce qu'on avait déjà dit dans des podcasts où maintenant, par exemple, dans la sauce tomate, il y a un petit peu de sucre, mais même dans plein d'autres produits qui semblent inattendus parce qu'ils sont salés, il y a un peu de sucre dedans. Et donc, au final, il y a du sucre dans les trois quarts du sucre ou quelque chose d'équivalent au sucre dans les trois quarts des produits transformés. Et donc, encore une fois, ces machins-là, il faut pas en manger. Et souvent, d'ailleurs, sur le forum, là, on a toujours des gens qui disent « oui, des fois, ils disent pas skinny fat parce qu'ils connaissent pas le mot. Ils disent « oui, je suis un peu gras » ou « qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Une diète, une prise de masse, blablabla. » Mais je crois que déjà, la part du temps, faut déjà arrêter de manger des produits transformés et voir ce qui se passe. Ça se trouve, si vous arrêtez de manger des produits transformés et qu'à la place, vous mangez des lentilles, des trucs comme ça, qui ont une grosse densité calorique, c'est-à-dire que quand vous mangez un gros plat de lentilles, plus éventuellement du tofu, je ne sais quoi, ça vous tient bien.
Quel bon plat, ça donne envie. Hein.
Ça vous tient bien au ventre, tout ça, et vous n'allez pas avoir 2 heures après envie de remanger autre chose si vous avez pris une grosse quantité. Ou si vous avez mangé des patates, enfin bref, un bon gros truc nourrissant, et ça se trouve rien qu'en mangeant des aliments normaux, vous allez maigrir tout seul parce que vous n'allez pas avoir ces espèces de fringales régulières ou avoir faim 2 heures après parce que vous avez mangé un truc de merde pas nourrissant. Et je pense souvent la base, c'est déjà ça, c'est de stopper tous les produits transformés. On voit ce qui se passe et puis après, éventuellement, on ajuste sa diète. Je pense qu'il y en a pas mal qui devraient faire ça parce que quand on voit les caddies, ce serait quand même bizarre que tous ceux qui nous écoutent ne mangent pas de produits transformés, Rudy.
Ouais, mais en fait, c'est parce que, tu vois, j'ai un exemple tout à l'heure, j'ai Valentin, je sais pas s'il nous écoute, qui avait écrit à Loïc par rapport à la boutique et qui voulait venir au Super Physique Gym, et donc qui est venu tout à l'heure à la salle, et donc on discutait, et je dis, donc il avait des objectifs en muscu, on discute, bref, à la salle, on discute pas mal, et je dis, est-ce que, comment tu manges, ça? Il dit, je mange plutôt sain, je fais attention à ce que je mange, tout ça, c'est plutôt bien, j'ai toujours eu du mal à grossir, donc vraiment, je fais attention, et puis en fait, au fil de la discussion, je comprends que pour lui, normal, donc lui, il est commercial dans la grande distribution. Bref, on va pas revenir là-dessus. Et faut bien gagner sa croûte, on va dire. Et je lui dis, ouais, et tout. Et il me dit, tous les midis, je suis au resto. Et je lui dis, attends, tu m'as dit que t'étais carré sur la diète. Il me dit, ouais, mais quand je vais au resto, je fais attention, nanana, tout ça. Je lui dis, donne-nous un exemple. Et donc, bah, forcément, il donne l'exemple du midi. Et en fait, il avait bouffé un financier. Il avait bouffé un plat, forcément, qui était un peu en sauce.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Tu vois. Et donc, on était plusieurs à la salle. Et on lui dit, mais attends, mais ça, c'est pas manger sain. Ça, c'est pas faire attention. C'est pas, qu'est-ce que je dis, c'est pas raccord avec les objectifs dont tu me parles. Qui, comme on en a parlé la dernière fois, sont plus des objectifs fantasmés, que de réels objectifs. Et pour dire que, pour beaucoup de personnes, en fait, la définition de manger normalement n'est évidemment pas celle qu'on préconise, celle que toi tu as, celle que moi je peux avoir. Et je rajouterais même que sur le forum, il y a une question sur mon topic un coup là. Donc, il y a un topic, posez vos questions à Rudy. Et je sais plus qui disait, oui, j'ai vraiment à savoir plus sur l'alimentation ancestrale, l'alimentation paléo, tout ça, parce que je me rends compte que manger des aliments sains ne suffit pas. Il faut aussi voir d'où ils viennent, tout ça. Alors bien sûr, toutes ces histoires de diète paléo, ancestrale, tout ça, pour moi, de plus en plus, c'est un peu des conneries parce qu'on sait pas exactement comment ça mangeait dans telle ou telle partie du continent, à quelle époque, tout ça. On fait un micmac de tout sous couvert de marketing. Et c'est vrai que manger sain, ça suffit pas. Il y a aussi cette histoire de qualité des aliments. D'où viennent les aliments? Ça fait partie de cette histoire de sain. Est-ce que c'est la bonne saison pour manger ça? Si en hiver, vous bouffez des tomates et des fraises, si vous habitez en France, c'est pas des aliments sains. Voilà, même s'ils sont bio ou quoi, c'est de la daube. Donc, il y a aussi cette histoire de qualité des aliments dont il faut faire attention, en plus d'aliments non transformés, pour qui, des fois, bah, c'est un aliment non transformé, donc c'est un aliment sain, pas forcément. Ça peut être un aliment bien pourri parce que c'est pas sa saison, il a pas poussé au bon endroit, il a voyagé je sais pas combien de temps. Donc ouais, c'est sûr que cette définition.
Ouais, alors là, j'irai pas avec toi sur ce terrain-là de dire celui qui mange des tomates en hiver, c'est pas un aliment. Enfin, là, je te suivrai pas là-dessus, ça me semble excessif. Mais par contre, qu'au resto, en fait, normalement, tu devrais avoir des aliments sains dans ton assiette, mais au final, tout a été pourri par une sauce, voilà, dont tu connais pas la composition. Puis après, tu prends un dessert dont tu connais pas trop la composition. Puis au final, ton plat était pas si sain que ça parce que t'as eu un dessert que tu maîtrisais pas, t'as eu une sauce que tu maîtrisais pas, et même si t'as pris un plat de crudité en entrée, t'as encore eu une sauce que tu maîtrisais pas. Donc, t'as eu deux sauces plus un dessert. Et donc, au final, certes, c'était peut-être pas trop d'aliments transformés par rapport à si t'avais pris un William Saurin, mais c'est pas folichon, quoi. C'est pas comme, voilà, moi qui avoir mon truc de lentilles, puis qui va mettre un petit peu d'huile de colza, ou qui va faire un dalle de lentilles, etc., où je maîtrise tout ce que je mange, en fait. Tous les ingrédients qui sont dans mon assiette, je les maîtrise. Mais alors après, de là à dire qu'il faut pas manger de fraises en hiver, ou je sais pas quoi.
Il est pas pour les aliments de saison, le type.
Si, bah, j'essaye, mais c'est plus pour des raisons écologiques. C'est pas par rapport à mon corps. Je veux dire que mon corps en hiver, que je mange des fraises en hiver ou en mois de juin, il saura pas la différence, tu vois. Parce que
c'est pas les mêmes fraises.
Ouais, je ne sais même pas dit que ce soit pas les mêmes fraises.
C'est elles
sont dans
fraises.
Des serres ou je sais pas quoi. Donc bon, là, je te suivrai pas sur ce terrain-là. Si les gens en étaient à savoir quel fruit de saison manger plutôt que de manger des aliments transformés, crois-moi, ce serait déjà pas mal. Puis de toute façon, quand c'est pas la saison, souvent, c'est beaucoup plus cher. Et déjà que c'est cher en temps normal, de toute façon, ça te calme un peu de plus en plus de manger des aliments.
Alors, je reviens là-dessus. Je vais pas citer de personne aussi, mais nous, ça nous calme parce qu'on est très économes. Mais il y a beaucoup de gens chez qui ça calme pas et qui, en fait, constatent juste que le prix des courses augmente. Là, j'ai vu un truc passer, t'as dû le voir aussi sur le newsletter économique, où le prix des chocolats, parce que là, ça va être Pâques, a augmenté de genre en moyenne 6, 8, 10%, quoi, pour Pâques. Mais ça n'empêche pas les gens d'en acheter, en fait, et de dire, de se plaindre, de dire ça augmente, et de continuer. Moi, je vois des proches à moi qui achètent des trucs, ils me disent « Ah, les courses, ça augmente, j'aurai leur ticket de caisse. » Je dis « Mais ouais, mais là, il y a 80 balles sur le ticket de caisse que tu peux enlever facilement. » Donc, je suis pas sûr que ce soit si contraignant que ça, cette hausse de prix, pour la plupart, quoi, malheureusement.
Ok, alors, autre sujet pour pas toujours parler de la diète. Toi qui aimes bien les citations, Rudy, j'ai trouvé une super citation pour toi. Alors, elle était en espagnol, mais je l'ai traduit plus ou moins en français. Donc, c'est une citation pour ceux qui sont toujours le nez dans le smartphone. Voilà, même quand ils sont avec leurs amis à un bar, bah, ils font du smartphone un petit peu. Ou quand ils sont avec leurs copines au resto, ils vont faire un peu de smartphone. Quand ils sont chez eux, ils vont faire un peu de smartphone en même temps qu'ils regardent un film ou une série. Bref, ceux qui sont toujours le nez dans le smartphone. La citation est Rudy. Si je ne suis pas à ce que je fais, je ne pourrai jamais être qui je suis.
Mais qui es-tu?
Oui, c'est ça. Elle est un peu bateau, la citation, mais elle claque bien, tu vois. Si je suis pas à ce que je fais, je pourrais jamais être ce que je suis. Et donc, voilà, j'ai voulu la partager. Comme ça laisse un petit peu de flou sur ce que je suis. Mais en même temps, c'est normal. parce que du coup, on ne sait pas nécessairement qui on est. Mais ce qui est sûr, c'est que si chaque activité qu'on a fait, on la vit pas pleinement, eh ben, on est sûr de jamais découvrir qui on est vraiment. Tu vois, Rudy.
Non, mais bien sûr. Mais en fait, alors tu vois, on parlait du sucre, mais en fait, les smartphones, toute cette sur sollicitation, sur production, sur information. En fait, pour moi, c'est comme le sucre, c'est une drogue. Et je le vois parce que, encore une fois, je donne pas mal de cours et notamment en BPJEPS. Je vois des fois, dès que je suis avec un élève, et ben, j'en vois d'autres qui sont sur le téléphone, à regarder des trucs qui servent à rien, trucs inutiles. Et on voit que tout le monde est dans le sur. Et ce sur tout, je vais appeler ça comme ça, et ben, empêche effectivement d'être à ce que tu fais, de pouvoir assimiler, de pouvoir apprendre. En fait, t'occupes de l'espace mental. Et en fait, c'est une drogue. T'es toujours en train d'attendre ta notification, ton téléphone s'allume, ton truc ceci, ton truc cela. Et bon, j'en parle souvent dans le Leadercast, tout est fait pour te droguer au maximum et te faire de moins en moins réfléchir, quoi. On en revient à cette histoire de responsabilisation dont tu parlais la dernière fois, où en fait, on essaie au maximum de te manipuler, quoi, de te droguer. Donc, toute la question est effectivement d'être à ce qu'on fait, mais c'est pas si facile. Si on a, c'est comme quelqu'un qui voudrait maigrir et qui a des gâteaux chez lui, bon, bah, la meilleure façon, c'est de pas avoir de gâteaux. Si tu veux être à ce que tu es, quand tu es en train de lire un bouquin, ton téléphone, tu le mets dans la pièce d'à côté. Et puis voilà, si tu poses ton téléphone à côté du lit, tu sais très bien que tu vas faire du téléphone au lit, quoi. Donc,
ouais, mais c'est pas évident, comme tu dis, parce que tout pousse dessus. Moi, depuis que j'ai le smartphone, parce que j'y étais obligé, hein, encore une fois, avant, j'en avais pas. Hein, puis j'ai pas écrit un livre en disant « je vis sans smartphone », c'est juste que j'en avais pas. Parce que, mais je trouvais pas ça extraordinaire. Au contraire, je trouvais ça, j'étais content de pas en avoir. J'ai dû en avoir un pour pouvoir me connecter au site bancaire et tout le bordel, parce que sinon, je pouvais plus rien faire. Et comme le fait, là, pour rentrer dans la salle où je vais, Fitness Park, il y a un QR code, donc je suis obligé de sortir le téléphone. Si je veux utiliser le SkiErg et puis le programmer un peu, bah, j'ai une appli qui s'appelle ErgData, donc je suis obligé de bidouiller un peu sur le truc qui s'appelle ErgData. Quand je fais le rameur pour suivre la cadence, j'aime bien regarder une vidéo sur YouTube. Bon, ça, c'est un peu du confort. Je suis pas obligé. Mais donc, je regarde une vidéo d'un type qui est en cadence 18. Et donc, moralité à la salle, ben, je le sors au moins. Je le sors, en fait. Tu vois, il est à côté de moi. Et au moment où je fais les étirements en fin de séance, ça aussi, c'est un truc de confort. Ben, je mets un truc d'intervalle. Il y a souvent un truc qui fait des bip bip avec des intervalles. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, cette appli-là. J'entends souvent ce bip à la salle pour mesurer 15 secondes, 4 secondes, etc. pendant mes étirements. Et moralité, bah, tu vois, j'ai le téléphone à côté de moi. Alors que, bah, avant, j'avais pas de smartphone. Et donc, du coup, de fait, je l'aurais pas du tout eu à côté de moi. Et voilà. Donc, c'est quand même difficile de s'en passer parce qu'on en a besoin. Et même quand je vais ici à Valencia, il y a un truc, c'est un zoo. Ça s'appelle le Bioparc. Et bah, pareil, pour rentrer, j'ai un pass annuel et bah, c'est un QR code. Donc, faut que je sorte le smartphone, tout ça. Et moralité, même malgré moi, quoi, je le sors où j'en ai besoin plein de fois par jour. Et bah, une fois que tu l'as sorti, des fois, faut résister à pas aller bidouiller à droite à gauche. Alors qu'en fait, si tu l'avais pas sorti parce que t'en avais eu besoin, bah, t'aurais pas non plus eu l'idée d'aller vérifier autre chose dessus, tu vois. Donc, bref, pas si évident que ça, le smartphone, même quand on a de la, qu'on pense avoir de la volonté pour ne pas être happé. Donc maintenant, souvenez-vous de la phrase. Tu t'en souviens de la phrase, Rudy, ou je la redis?
Bah, je l'ai devant les yeux, tu sais.
Ah ouais. Bon, allez, dis-nous-la comme ça. Dis-nous-la avec conviction, Rudy.
Si je ne suis pas à ce que je fais, je ne pourrai jamais être qui je suis.
Ah voilà, c'est classe. Il faudrait la traduire en anglais pour que ça fasse encore plus slogan marketing.
On devrait la mettre sur un t-shirt.
Alors, autre sujet, et c'est pareil, ça m'a encore rappelé la muscu, comme c'est quand même un podcast à origine de muscu. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Donc, il y a Nicole Kidman. Je sais pas si c'est ton époque, Nicole Kidman.
Oui, un peu.
Ouais, un petit peu. C'est pas trop mon époque. Mais bon, on va dire, là, c'est l'époque Sharon Stone, Pamela Anderson et tout ça. J'ai vu un titre sur le internet de ma femme, à Genie, grâce à sa nouvelle coupe de cheveux. Et donc, tu vois une photo de Nicole Kidman. J'ai vérifié sur Wikipédia, elle a 56 ans. Elle en paraît 25 sur la photo. Mais c'est grâce à sa nouvelle coupe, mon cher Rudy, c'est qu'elle a une super coupe qui rajeunit de 30 ans. Mais bien entendu, t'as pas un mot sur toutes les opérations esthétiques probables qu'elle a mis en œuvre pour paraître aussi jeune. Et ça m'a un peu rappelé les culturistes dans les années 90, dans les magazines, qui étaient quatre fois comme nous, mais c'est parce qu'ils avaient le programme de biceps magique, tu vois. Il y avait jamais un mot à cette époque sur le dopage et tout ça. C'était toujours le programme biceps. Et ben là, c'est la la coupe de cheveux qui fait que Nicole Kidman, elle paraît 30 ans de moins. Donc, ça me fait assez rire. Et justement, me venait à l'esprit une réflexion. Donc, c'est là que votre serviteur a 44 ans. Et finalement, je me dis, à quoi est censé ressembler quelqu'un qui a 44 ans au niveau du visage? Et ben, vous me direz, ben, il suffit de regarder dans la rue, pauvre truffe, il y a plein de gens qui ont 44 ans. Oui,
pauvre truffe.
Dans la rue. Oui, mais dans la rue, voilà, les gens ne mangent pas forcément sainement, ils font pas forcément autant d'activités physiques que je fais, etc. Donc, ça se compare pas nécessairement. En plus, beaucoup de gens doivent se lever au réveil, alors que, ben, coup de peau. Moi, j'ai organisé ma vie pour ne pas avoir à mettre le réveil. Donc, du coup, a priori, je devrais avoir moins de cernes que quelqu'un qui met le réveil depuis 3 décennies. Bref. Et donc, du coup, ben, j'ai pas vraiment de modèle. Et si je regarde les acteurs de cinéma qui sont plus âgés, mais qui étaient de la génération des années 90, là, comme Tom Cruise ou Brad Pitt, ou d'autres de cette époque, et en fait les types ils paraissent plus jeunes que moi, tu vois. Et donc du coup des fois je me retrouve un peu dans la même position que quand on avait créé Superphysique pour dire à quoi ressemble un type qui fait de la muscu, qui se dope pas, puis qui n'est pas professionnel de la muscu, voilà, qui fait ça en plus mais avec beaucoup de focus, de dévouement, etc. À quoi il ressemble? Et puis c'est pour ça qu'on a créé Superphysique. Et moi je me dis, bah à quoi est censé ressembler à un type de voilà qu'à la quarantaine au niveau du visage qui fait à peu près attention à sa santé, tu vois. Et en fait en regardant les acteurs de cinéma ou les gens qui sont très médiatisés, ça donne pas l'info parce qu'en fait ils font tellement de chirurgie esthétique. Ouais, c'est ça. Entre les photos magouillées, l'éclairage, le maquillage, éventuellement maintenant les retouches informatiques automatiques si c'est des films, et puis surtout les innombrables trucs de traitement esthétique qu'ils font, ben au final tu sais plus, tu vois, finalement je sais plus à quoi ça ressemble. Faudrait que je puisse râler en arrière et voir par exemple mon grand-père, où lui je sais qu'il mangeait pas de produits transformés, puis que voilà, comme il était à la ferme et tout ça, il faisait un peu d'activité. Faudrait que je vois à quoi il ressemblait quand il avait 44 ans. Voilà, ça m'aurait donné un truc. Mais bah là, je peux pas aller voir à quoi il ressemblait. Donc, moralité, bah, je ne sais pas. Donc, Rudy, il va falloir créer une team 44 ans qui mange à peu près sainement pour qu'on voit à peu près à quoi ressemblent les gens.
Non, mais c'est marrant ce que tu dis. C'est vrai que on sait. Après, tu veux comparer, donc c'est ça le truc aussi. Mais c'est vrai qu'on sait pas à quoi ça ressemble maintenant, étant donné toutes les mauvaises habitudes qu'ont la plupart des gens qui paraissent souvent beaucoup plus que leur âge.
Oui.
Des fois, moi, je vois des gens, je dis putain, mais ils ont que ça. Ou alors après, je suis aussi entouré de personnes qui font moins que leur âge, hein, parce qu'ils prennent soin d'eux. Mais ouais, on ne sait pas. Et là, c'est vrai que les acteurs, bon, ça y va sans arrêt, comme tu l'as dit, sur les opérations, sur les retouches, sur les produits dopants. Là, je t'ai dit, on a regardé Iron Claw, mais tu regardes aussi Roadhouse. Là, tu vois que les types sont chargés comme des mulets.
Oui, donc, ou même dans Fast and Furious, là, j'ai oublié comment ils s'appellent, les deux acteurs de Fast and Furious.
Bah, Vin Diesel et The Rock.
Voilà, surtout The Rock. Alors, lui, il a la cinquantaine et bon, il est magnifique, mais bon, voilà, quoi. Tu peux pas comparer. Mais ouais, c'est vrai.
Bah, moi, à mon avis, si t'avais des cheveux, tu paraîtrais plus jeune. À mon avis, c'est plus ça que tu devrais essayer. Tu devrais t'acheter un petit toupet, comme dirait Marius dans Les Bronzés, un magnifique toupet. Et t'essayes et tu nous fais une petite photo, on te dira si tu rajeunis, quoi.
Ouais, non, mais ça, c'est vrai, parce que si tu prends d'ailleurs Trump, qui est assez âgé, je trouve qu'il fait plutôt jeune au niveau du visage grâce à sa perruque. Mais bon, ce qui m'intéressait, c'était surtout de voir un peu les cernes et l'allure du visage général et tout ça.
Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas. Trump, quand il a commis une photo, il a tout retouché, tu sais rien.
Ah oui, enfin bon. Bref,
mais c'est vrai qu'on te rend compte, Fabrice. La fille sur les photos, tu dis waouh putain incroyable et tout. Tu la vois en vrai, tu dis putain mais c'est pas la même. Elle est où?
Ouais, bref, c'est pas évident de savoir. Et sur YouTube, régulièrement, moi j'ai des contenus qui se mettent sur le côté où c'est genre Schwarzenegger, non pas Schwarzenegger, Stallone qui a son secret pour être ou son programme d'entraînement pour être comme ça à 70 ans. Enfin, le titre ressemble à ça. Puis, effectivement, tu vois une photo de Stallone qui a l'air tout jeune, mais bon, Stallone, on sait qu'il a chargé puis qu'il a bien fait des opérations de chirurgie dans tous les sens. Donc bon, il peut paraître tel qu'il est à 70, mais il y a pas plus beaucoup de différence. Enfin, il y a beaucoup de différence entre lui et nous, quoi. Et voilà. Donc pas simple, Rudy, de savoir comment vieillir. Qu'est-ce qu'est un vieillissement, on va dire normal. Bah du coup, je ne sais pas répondre.
C'est pas non, mais moi non plus. moi non plus, je ne sais pas répondre. C'est sûr que c'est difficile de savoir. Sachant déjà qu'on est tous différents et en plus que nos hygiènes de vie influencent fortement comment on vieillit, donc bon. Tant que tu sais pas que tu vieillis, tout va bien.
ouais, j'avais déjà raconté la technique. Je t'avais déjà dit, en fait, le truc, c'était, pour voir ce que vous ressemblez à 5 ans, vous regardez la tête que vous avez le matin au saut du lit dans le miroir, et en fait, ce sera la tête que vous aurez à 4 heures de l'après-midi dans 5 ans.
Oh, bah, ça va, alors. Mais si tu te regardes le matin dans le noir, il n'y a pas trop de lumière, ça peut aller, peut-être.
Donc, bon, mais ça marche, sachez bien, cette technique-là, elle marche pas mal, et je me demande, j'ai l'impression qu'au fil du temps, même ça raccourcit de plus en plus, tu vois ce que je veux dire? Avant, voilà, ça te donnait à 10 ans près, et maintenant, ça te donne à 3 ans près. Bref. Alors, est-ce qu'il faut répondre à des questions, Rudy?
Bien sûr.
Là, j'ai plus de liste, là.
Bien sûr. J'avais sélectionné des questions récentes, là, que j'ai eues tout à l'heure dans l'après-midi. Et il y en a une que je vois, il y a beaucoup de personnes qui se la posent et elles méritent d'en poser. C'est Gilles. Donc, Gilles, je connais bien parce qu'il a fait la formation super physique. Donc, sur methodesp.rudycoya.com pour ceux qui veulent aller voir. Et Gilles, il a 40 ans et il se demande, comme beaucoup de personnes, s'il peut encore progresser. Et si oui, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Est-ce qu'il faut qu'il en fasse plus? Est-ce qu'il faut qu'il mange mieux? S'il faut qu'il fasse plus attention à son hygiène de vie? Voilà. Est-ce qu'il a encore de la marge de progression à 40 ans? Et c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre parce que forcément il faut beaucoup de contexte et en même temps on n'est pas devin, on peut pas savoir quel est le potentiel de chaque individu, ce qu'il a fait auparavant. Et pour répondre, j'ai donné plusieurs exemples. Hier j'ai interviewé Fabien Richard, donc ça sort la semaine prochaine sur les secrets du sport, qui est préparateur physique de foot et lui qui est spécialisé dans l'explosivité. Et je lui ai dit voilà, l'explosivité, comme vous, si vous le savez pas, voilà, je vais vous le dire. C'est quelque chose qui s'améliore pas drastiquement. En gros, tu n'es explosif ou tu l'es pas, tu n'es rapide ou tu n'es pas rapide, et tu peux améliorer en moyenne, Gilles Cometti en parle dans ses bouquins, c'est autour de 10%. Donc Fabien dit d'expérience qu'il va faire gagner 2, 3, 4% par an, voilà. Et je dis, est-ce qu'il y a un âge limite à partir duquel bah, tu n'arrives plus à augmenter cette explosivité? Je dis, qu'est-ce que tu as remarqué, toi qui as entraîné beaucoup de footballeurs professionnels en prépa physique sur l'explosivité, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, souvent, c'est autour de 33, 34 ans, que bah là je vois que malgré tous les petits tests qu'on peut faire tout ça, et ça gagne plus trop. Voilà, ça gagne plus trop, on arrive à maintenir et il dit à partir de je sais plus ce qu'il dit 35 36 37 ans, bah déjà si t'arrives à maintenir, c'est super. Maintenant, là on parle dans le cadre de personnes qui sont très très entraînées, qui optimisent beaucoup ce qu'ils font. Donc lui qui est au cœur du truc m'a dit que la plupart des meilleurs footballeurs avaient une hygiène de vie presque irréprochable, faisaient beaucoup de temps de récup, tout ça vraiment ils étaient optimisés. Mais la question c'est pour quelqu'un qui est pas hyper optimisé, quelle est sa marge de progression? Et souvent, ce que j'aime bien dire à la plupart des gens qui me demandent, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller pour progresser et à atteindre hypothétiquement vos objectifs. Dans le sens où ce qui limite la plupart des gens, c'est effectivement l'investissement que vous êtes prêt à faire, déjà d'un point de vue alimentaire. Est-ce que vous êtes prêt, je reprends l'exemple de Valentin tout à l'heure, à ne plus faire aucun resto et à manger votre gamelle tous les midis? Est-ce que vous êtes prêt à vous coucher, je sais pas, à une connerie à 22h et à vous lever pas avant 7h le matin, donc à dormir au moins 9h par nuit? Est-ce que vous êtes prêt à, quand vous vous entraînez, à vraiment être dans votre séance pour devenir qui vous souhaitez être? Pour reprendre la caricature. Mais jusqu'où vous êtes prêt à aller, en fait? C'est plus ça, parce que ce qui est sûr, c'est que aucun d'entre nous, n'étant pas professionnel, ne fait absolument tout comme il faut pour progresser. Si je reprends l'exemple des bodybuilders pro dans les DVD, que je regardais quand j'étais gamin. D'ailleurs, s'il y en a qui sont de passage, je veux bien donner des DVD parce que j'en ai plein et je pense pas en regarder tant que ça d'ici la fin de ma vie. Et surtout que je les ai tous vus certains plus d'une dizaine de fois.
Ouais. Je sais jamais si un jour il y a un petit Rudy, tu seras content de lui transmettre tes DVD. Sûr,
hein. Bah, je te le donnerai, Fabrice. Je te le ferai adopter. Comme ça, t'auras une belle vie. Avec. Bref, et donc quand on regardait ces DVD-là, bah, on a l'impression, du moins pour certains, que toute leur vie était optimisée pour ça. Ils se levaient le matin, ils faisaient leur heure de cardio à jeun, ensuite ils mangeaient, ensuite ils se reposaient un peu, ils allaient à la salle, et puis ils rentraient, ils mangeaient, ils faisaient une petite sieste, ils allaient se réentraîner, et puis après ils faisaient encore leur cardio le soir. Vraiment, c'était très très optimisé. On voyait que tout était très réglé, du moins pour certains. Mais nous, en tant qu'amateurs, bah, c'est sûr qu'on le fait pas. Donc notre marge de progression est effectivement existante, mais jusqu'où? Eh ben, ça, c'est difficile à dire. Et c'est pour ça que quand t'as 40 ans ou 35 ans, bah, ça dépend ce que t'as fait avant, ça dépend tes antécédents, ça dépend ton potentiel, et ça dépend surtout de ce que t'es prêt à faire pour progresser. Sachant que là, pour Gilles, bah, il n'y a pas d'objectif chiffré, c'est est-ce que je peux continuer à progresser? J'ai envie de te dire oui, mais qu'est-ce que t'es prêt à faire pour ça? Je reprends un exemple. Si demain vous voulez prendre 5 kilos de muscle, et que ça fait 10 ans que vous vous entraînez, plus ou moins correctement, et vous faites déjà, par exemple, taille-poids, vous êtes 1m80, 80 kg, vous dites, je veux prendre 5 kg de muscle. J'ai envie de vous dire, voilà, est-ce que t'es prêt, par exemple, pendant 5 ans, et certains vont dire que je suis extrême, mais encore une fois, c'est à la hauteur des objectifs, de mon expérience, hein, après avoir coaché des milliers de personnes, blablabla, pour refaire le point. Est-ce que tu es prêt pendant 5 ans à pratiquement pas faire d'écart sur ton alimentation, à vraiment te coucher presque tous les jours à la même heure, à pas faire d'excès, à pas prendre de vacances, pratiquement pas, parce que ta marge de progrès est réduite après 10 ans d'entraînement? Est-ce que tu es prêt à faire tout ça? Et est-ce que surtout tu as envie, est-ce que l'objectif est assez motivant, assez challengeant pour toi? Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui t'importe? Si oui, bah, je pense que c'est possible. Maintenant, si toi, en fait, t'aimes bien aller au resto 2-3 fois par semaine, t'aimes bien des fois faire des soirées et te coucher à 1h ou 2 du mat, des fois tu bois un petit peu d'alcool, je sais pas, tu bois 2-3 verres par semaine, voilà, et que l'entraînement, bah voilà, des fois t'es dedans, mais des fois t'es pas dedans, t'as d'autres trucs, tu sautes une séance par-ci, par-là, bah tes objectifs sont pas réalisables, et en fait, c'est juste un fantasme. C'est, voilà, j'aimerais que, mais c'est pas je vais faire que. Donc, c'est ça, la vraie limite, c'est quel investissement vous êtes prêt à faire pour atteindre votre objectif. Et c'est ça, j'ai envie de dire, le plus gros du travail. J'en parlais avec, je sais plus qui, j'en parlais avec Nico Martin, justement, de trail, qui lui aussi est coach, mais plus dans le trail, justement, dans la course à pied. Il disait, moi, pour beaucoup de gens, ce qui se passe en coaching, c'est que beaucoup de personnes arrivent avec des faux objectifs et me disent, voilà, j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça. Et en fait, le gros du travail d'expérience, bah, c'est de mettre un objectif, on va dire, plus concret, plus réaliste, et après de voir bah, où ça mène, tout en sachant que, encore une fois, on ne sait pas prédire l'avenir. Des fois, il y a des surprises, des bonnes comme des mauvaises, voilà. Mais c'est vraiment ça le plus compliqué. C'est jusqu'où on est prêt à aller pour progresser, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que parfois, on s'imagine pas, on se dit, mais non, mais c'est pas une histoire d'aller au resto une fois par semaine, c'est pas une histoire de se coucher tous les jours à 22h, c'est pas si, c'est pas ça. Mais en fait, au bout d'un moment, comme dans beaucoup de sports à haut niveau, c'est des gains marginaux. Et ces gains marginaux, si c'est 1%, 2%, 3%, accumulés, ça fait une énorme différence. Mais encore faut-il arriver à ces gains marginaux et avoir envie de mettre ça en place pour aller les chercher, quoi. Voilà, Fabrice.
Ouais, après, c'est vrai qu'avec la muscu, c'est, il y a, ce qui est comme c'est le rapport au corps et tout ça. Et des fois, l'objectif est un petit peu flou. Par exemple, toi, Rudy, qui t'es mis à la course à pied, mettons que, tu fasses, le 10 km en 45 minutes, admettons. Eh ben, tu comprends que, 10 km en 44 minutes 30, bon, ça va te demander un petit peu d'entraînement, mais que 10 km en 40 minutes, là, il y a un sacré gros gap.
Là,
tu comprends tout de suite. Mais c'est vrai qu'avec la muscu, par exemple, des fois, il y a des gens qui vont voir Rudy en coaching, ils ont un petit peu de bide, tout ça, ils font 36 de bras, puis ils se disent, bon, bah, j'aimerais plus avoir de bide, avoir des abdos, et puis faire 40 de bras. Et du coup, mais en fait, ils se rendent pas compte du gap entre là où ils sont puis là où ils veulent aller, parce que c'est quand même assez flou, perdre le bide, tu vois. C'est pas comme passer comme dans l'exemple que je viens de donner, tu vois. Ou bah, si je fais la même chose avec le rameur, voilà, quelqu'un qui fait le rameur le 2000 mètres en 8 minutes, il comprend que c'est pour passer à 6 minutes 30, ça va être compliqué, tu vois, tu comprends tout de suite. Mais c'est vrai que voilà, passer du bide à abdos, des fois, on se rend pas bien compte du gap que ça représente et de l'investissement que ça représente, spécialement quand on est un petit peu âgé. Et c'est un peu le problème qu'il y a avec la muscu, c'est qu'on se rend pas toujours compte, en fait, du gap. Alors que dans d'autres disciplines, ça saute aux yeux, tu vois.
Ouais, mais, bien sûr, mais c'est parce qu'en fait, j'avais expliqué dans le guide de la session naturelle, donc qui est un bouquin disponible sur mon site, que j'envoie chaque semaine de manière dédicacée. Bref, en fait, quand t'as jamais fait de régime, t'as jamais perdu vraiment de poids, t'as jamais eu vraiment d'hygiène, tu te rends pas compte de combien de kilos faut perdre pour être déjà sec. Et j'ai eu l'exemple, bah voilà, c'est presque 20 ans que je coach, où les gens disent, bah voilà, moi j'aimerais perdre 5 kilos. Et en fait, avec l'expérience, dans ma tête, je me dis, bah en fait, il y en a 12 ou 13. Tu vois, à un moment, je disais, bah il y en a le double de ce qu'on pense. Si on a jamais fait de régime, c'est à peu près le double. Et des fois, même quand c'est le double, on perd. Donc la personne veut perdre 5, on en perd 10. Donc déjà, il a fallu négocier parce que tout le monde, beaucoup de personnes ont dit, ouais, mais je vais être tout maigre, je vais pas être très musclé, nanana. Mais la vérité, c'est que t'es pas très musclé. En fait, c'est que ce que tu prenais pour du muscle, c'est du gras. Et ça, c'est assez difficile à entendre et c'est assez difficile à vivre parce qu'on dit, bah tiens, je perds du muscle. Non, non, tu perds du gras. C'est juste que t'es vraiment gras et t'es beaucoup plus gras que tu ne le penses. Et ça m'avait fait ça sur ma première sèche en 2006 où je pensais perdre 3-4 kilos et en fait, j'en avais perdu 9. Et donc, bah forcément, j'étais beaucoup moins balèze que ce que je pensais. Et bon. Et donc, c'est vrai que quand tu veux perdre du bide, bah, tu dis, voilà, moi, c'est 3-4 kilos, mais en fait, ça se trouve, bah, c'est déjà 10. C'est déjà 10, c'est déjà 12. Et tu vas te rendre compte, en plus, au fur et à mesure du régime, que, bah, en fait, du gras, t'en as encore. Tu penses qu'en perdant 10, tu vas être super sec comme Jake Gyllenhaal dans Roadhouse, mais en fait, pas du tout. En fait, t'auras juste le ventre plat, Et c'est tout. Et pour être comme Jake dans le truc, là, s'il y en a qui regardent, ben en fait, c'est plutôt 20, voire 25 kilos qu'il faut perdre. Et là, tu te dis, maintenant, 25 kilos, je suis 1m80, 85 kilos, j'ai un petit ventre, moi, je vais faire 80 kilos, parce que si je fais 75, je vais être tout maigre. Mais en fait, j'exagère pas, il faut que tu fasses 65 kilos. En fait, la vérité, c'est un peu ça. Mais ça, tu t'en rends jamais compte tant que t'as pas fait ton régime. Et pour le tour de bras, c'est comme tu dis. En fait, tout à l'heure, voilà, quelqu'un voulait prendre 5 kilos de muscle, là, il me dit, ouais, je vais prendre 5 kilos de muscle, nanana. Ben, je lui dis, écoute, voilà ce que je pense. Je lui dis, c'est 50 steaks hachés. J'ai dit, c'est à peu près ça le volume, donc on peut chipoter, voilà, il y a quelques pourcentages d'écart, mais c'est à peu près ça le volume que ça représente. C'est à peu près 75-80% d'eau, 20% de prot, je crois, il y a 5% de lipides, donc voilà, 75, un truc du style. Et donc, c'est-à-dire quand tu prends un steak haché 5%, tu le colles sur ton biceps, ça t'as fait 100 grammes de muscle. Et là, tu te rends compte que si tu prends 50 steaks hachés, donc 5 kilos de muscle, mais c'est monstrueux, c'est pas du tout le même truc. C'est pareil, on a tendance à surévaluer la quantité de muscle qu'on prend. On se dit, bah ouais, mais attends, moi j'ai pris 10 kilos, c'est du muscle. Non, en fait, t'as pris, je caricature, mais t'as pris 7 kilos de gras, 1 kilo d'eau et 2 kilos de muscle, en fait. C'est ça la vérité. Mais ça, c'est dur à entendre parce que, encore une fois, tu vois les réseaux, tu vois les magazines, il n'y a plus de magazines, mais nous, on voit les magazines. Les mecs, ils disent, prenez 4,5 kilos de muscle en 6 semaines, prenez 10 kilos dans l'année de muscle. Mais en fait, pas du tout. Déjà, je sais pas quel âge vous avez, mais si vous avez 30 ans ou 35 ans ou 40 ans ou plus, si tu prends 1-2 kilos dans l'année et encore parce que t'es déjà un peu sec, tout ça, et que t'as pas besoin de perdre de poids ou de perdre du gras, bah c'est déjà super en fait. C'est déjà 10 t'es caché ou 20 t'es caché, c'est énorme en termes de volume. Mais ça, on se rend pas compte et on se dit, bah non, mais c'est rien du tout. Effectivement, c'est facile d'accumuler des kilos, mais des kilos de merde, oui, ça c'est facile. Mais ouais, c'est sûr qu'à la muscu, on se rend pas compte parce que tout est faussé par les réseaux, par des vendeurs sans scrupules, par des marketeurs malhonnêtes, hypocrites, qui essayent de te plumer, c'est tout. La vérité, c'est pas ça, c'est que ça nécessite du temps, de l'investissement, et que, bah oui, il y en a des fois qui sont hyper doués, et qui mangent des pizzas et des kebabs, et qui s'entraînent 3 fois par semaine, qui ont des super physiques, voilà, ça s'appelle un coup de chance, le contre-exemple. Mais pour la plupart des gens, bah, il faut s'investir, il faut y aller, et prendre 4 cm de bras, c'est énorme en fait. C'est là dans ton exemple, c'est énorme. En fait, on se rend pas compte. Il y a des gens qui feront jamais 40 cm de bras, comme il y a des gens qui feront jamais 10 à 100 au coucher. Voilà, c'est ce qu'on disait à l'époque sur les forums smart. On disait 10 à 100 au coucher, c'est à peu près 40 de tour de bras. C'est entre 39, 41, voilà, en moyenne. Ben voilà, si t'arrives pas à faire ça, à moins que tu sois vraiment très doué pour les bras et vraiment très peu avantagé pour les pecs parce que t'as pas de cage, des longs bras, tout ça. Ouais, ok, tu feras pas 10 à 100, et puis tu feras peut-être 10 à 85 à 90, tu auras ces bras-là. Mais, tu les feras pas, tu auras pas ces bras-là en faisant 10 à 60 au coucher, quoi. Donc, on se rend pas compte, en fait, c'est vraiment, pour ça que moi, j'aime bien parler et donner des objectifs comme on l'a fait, d'ailleurs, avec l'application. SP Training, donc la V3. D'ailleurs, il y a une petite mise à jour, j'en profite pour en parler parce que on n'en a pas parlé. Il y a eu une petite mise à jour sur l'application SP Training, la V3. Il y a eu l'ajout du chronomètre, donc l'ajout libre du chronomètre. Il y a eu, donc Pierre m'a envoyé un truc aussi, les objectifs par rapport à l'incrément minimal, ça a été également modifié pour que ce soit plus adapté à certains qui pouvaient pas. Il y a également des petites améliorations, a priori, d'animation, d'espacement et puis des petits bugs corrigés. Donc là c'est sorti, on est quel jour là, vous êtes vendredi, donc c'est sorti mercredi soir, donc mais c'est pour ça que donc sur l'application, je reviens, on met des petits objectifs du style 10 à 40 au coucher, 10 à 55, 10 à 70, 10 à 85, 10 à 100, etc. Parce que finalement on se rend compte que ça parle beaucoup plus que de dire je prends 4 cm de bras. Et en gros, je pourrais caricaturer en disant que tous les 10 ou 15 kilos développés couchés, si on prend cet exemple-là, eh ben, tu prends un petit centimètre de bras, quoi, en exagérant. Mais c'est pour ça qu'on mieux vaut se concentrer sur l'amélioration des perfs en série moyenne, sur des exercices qui sollicitent tes muscles, je simplifie aussi, plutôt que dire je vais prendre 4 cm de bras, parce que 4 cm de bras, en fait, ouais, effectivement, tu te rends pas compte de ce à quoi ça correspond. C'est 4 steaks hachés sur ton bras, peut-être 2 steaks hachés, c'est énorme, quoi. Tu vas pas les prendre comme ça, quoi.
Mmh. Ok, est-ce qu'on a un autre sujet, Olivier?
Ah bah, je vois qu'on arrive au bout, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est là. Je refais un petit point sur l'application. Donc ouais, la V3 donc était sortie avec pas mal de petits retours de votre part. Donc je rappelle que si ça vous intéresse de participer à l'amélioration de l'application, il y a un topic sur les forums Superphysique, donc superphysique.org puis forum. Il y a un topic qui s'appelle sur l'application, donc vous trouverez assez facilement. Et donc n'hésitez pas à faire vos retours pour essayer de l'améliorer. Comme je l'ai dit la semaine dernière et je le dis régulièrement, si ça fonctionne et que ça s'améliore, C'est un travail d'équipe, c'est pas uniquement tout seul. Donc là, dans la suite des opérations, si tout va bien avec cette mise à jour sur Android et qu'il n'y a pas trop de retour, et ben, il y aura la version sur iOS d'ici fin de semaine prochaine, donc peut-être pour le prochain podcast, sachant que moi, je suis sur iOS, donc j'aimerais bien, au lieu d'avoir la version d'essai, bref, la bêta test. Donc voilà. Je rappelle aussi que, je spoil un petit peu, mais on travaille sur possiblement des nouveaux compléments pour Superphysique, mais que ça met toujours plus de temps que prévu, parce que c'est toujours très très long. Donc on en reparlera en détail quand ça sortira. Et puis voilà, bah, n'hésitez pas de toute façon à aller faire un petit tour sur le site Superphysique, être à ce que vous faites pour devenir qui vous voulez être. Et ça passe souvent, si vous êtes des sites en muscu, par lire des articles de Superphysique qui sont toujours aussi pertinents et qui étaient là bien avant la surinformation, le surtout, et qui résument l'essentiel de notre vision de la musculation pour progresser sans dopage. Bref, je m'arrête là et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Dans la bonne humeur. Salut à tous.
Salut.
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.